9h dans le bureau de Par Jupiter.
On reçoit Caroline Vigneault, elle est très drôle, géniale. Ouais,
un parcours formidable, ouais. Elle a été avocate avant d'être humoriste.
Super, comme ça elle pourra nous aider quand on va se faire virer.
Ne sois pas si pessimiste, Guillaume. Il y a peut-être un des deux candidats au second tour qui va nous garder,
on sait pas. Lequel?
Allez, on prépare l'émission.
S'il vous garde pas, moi j'essaierai d'être à la hauteur de votre souvenir quand je reprendrai l'émission.
Mais voilà. Je crois que vous vous rendez pas bien compte, là, ça va être la guerre civile.
Vous les Français, toujours dans la demi-mesure.
Et puis ça vous laisse quand même deux bonnes semaines de réflexion, les deux.
Mais c'est mort, de toute façon, j'ai plus qu'à me reconvertir.
Tu demanderas des conseils à Caroline Vigneault.
Moi par exemple, j'aurais bien aimé devenir majorette.
La dégaine.
Non mais Charline, tu voulais être directrice de campagne de Lionel Jospin.
Au moins on n'en serait pas là, je te signale.
C'est clair, on pourrait voter Poutou au deuxième tour.
Et toi Alex, tu voulais pas faire chanteur de charme, toi?
Je peux pas en parler.
Comment ça?
J'ai des propositions.
Oh non,
la maison de disques de Franck Michael, il cherche son successeur pour la tournée des EHPAD.
Toutes les femmes sont belles après un certain âge.
Et toi, Guillaume?
Moi, je vais peut-être faire sondeur.
Beaucoup de ça.
Les mecs, ils bossent une fois tous les 5 ans en donnant des chiffres au hasard et personne ne leur reproche jamais rien.
Attendez, la voix royale, c'est McKinsey. Tu donnes ton avis sur tout, tu te fais payer très cher.
Parfois, tu donnes ton avis alors qu'on te l'a pas demandé.
C'est vrai.
Guillaume, qu'est-ce que tu fais?
Je prends les devants avant que Charline fasse une connerie.
Comment ça?
Oui, allô, l'association sportive des majorettes du Vésinet. Oui, bonjour, c'est pour la candidature d'une amie. Oui, elle, voilà, très très souple. Oui, mi bémol, parfait, voilà, elle ferait une très très bonne majorette. Elle pourrait être la chef des majorettes.
France Inter et bienvenue chez les greffiers du tribunal de commerce de la blague. Voici la devise du jour. Vis comme si tu devais revoter demain. Qui a collé des clitoris sur les affiches électorales à Paris? Le collectif féministe Nous Toutes, pour rappeler que les violences sexuelles, c'est devenu un thème majeur de société, mais passé en mode mineur pendant la campagne. Et l'activisme ne prend pas de pincettes.
Faut les dresser, hein. C'est comme ça maintenant, faut les dresser.
Pour peu que vous ayez pris au menu pizza buitoni, fromage et Kinder, potentiellement vous n'êtes plus là pour nous écouter. 3 scandales à la suite, ça sent la défaillance du système, selon l'ONG Foodwatch qui surveille l'industrie agroalimentaire, celle qui nous fait croire qu'en plus on aime ça même quand on a le choix.
J'ai les mêmes à la maison.
Et il est revenu, bien sûr, ce con. L'Italie accueille les télétravailleurs non européens et les encourage à venir s'installer avec un visa pour se poser au soleil, avec son petit ordi, avec son petit spritz. Non, je suis pas jalouse, non.
Son petit confort, ses petits tickets resto, ça pisse dans son froc. Je suis à tête brûlée, moi j'en ai rien à foutre.
Aujourd'hui, à mes côtés, c'est Alex Vizorek. Bonjour.
Eh oui, je ne suis pas encore en Toscane, mais ça ne saurait tarder. Bonjour, Charline Vanhoenacker. Je vous présente le reste de l'équipe. À 17h20, celui dont il est difficile de cerner le concept de la chronique, car chacune est unique et inexplicable. Avec lui, on est entre l'art contemporain et le crash test. Bonjour, monsieur Poulpe.
Bonjour, je suis insondable, mais venez me sonder quand vous voulez, Alex.
De quoi on va parler?
Je vais rapper, tout simplement. Je vais chanter dans cette émission.
Vous voyez, on ne sait jamais où vous allez être.
17h30, celui qui est très excité à l'idée de ce second tour, devoir choisir entre deux personnes dont il n'avait pas vraiment envie au départ, ça lui rappelle sa vie sentimentale avant d'être sur France Inter. C'est vous, Guillaume Meurice, bonjour.
Vous connaissez beaucoup trop bien. Bonjour, Alex. Bonjour tout le monde. Je suis allé voir les gens pour leur parler de leur choix au second tour, évidemment, et il y a de l'hésitation.
C'est du vert et vert jus, de toute façon. Hein. À eux deux, il faut un peu le couvercle.
Et des expressions françaises qu'on n'avait plus entendues depuis un bon moment, dis donc.
Bien, très bien. Et 17h40, la sagesse et l'élégance combinées. Non, ce n'est pas Valérie Pécresse qui vient chroniquer pour se refaire un peu de caillasse. C'est Isabelle Sorrente, bonjour.
Bonjour Alex. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman de Joyce Carol Oates qui est absolument magnifique, qui s'appelle La nuit, le soleil, la mort, les étoiles.
Passe le programme.
Et voici celle qui va remettre le pommier au milieu du verger, si je peux dire. Vous êtes
Caroline Vigneault, bonjour.
Oui, bonjour.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Par Jupiter.
Et bienvenue Caroline Vigneault.
Merci.
Vous serez à l'Olympia à partir de...
Demain,
donc pour 4 dates, et puis vous terminez aussi une tournée. Caroline Vigneault, croque la pomme, voilà le thème, vous avez deviné.
Ce qui aurait du féminisme un peu là-dessus.
Oh, pourquoi tout de suite
je ne sais
les
pas.
Gros mots.
Peut-être parce que j'ai
c'est
vu le spectacle.
Fou, hein, c'est ça. Et que tu me connais aussi.
Un petit peu.
Ça va les humoristes entre eux.
Oui, tout bien. Alors, on se fait toujours engueuler. Attention, soyez.
Allez, le cliché étant que les féministes n'ont pas d'humour, or vous prouvez le contraire parce que vous êtes féministe, vous en faites un spectacle qui est à la fois documenté et très drôle. C'est pourtant difficile d'être un peu militant. Si toutefois c'est du militantisme, hein, mais
Ah oui, c'est du militantisme. Ouais, mais voilà. Le problème...
Et de faire des blagues, parce qu'il faut avoir du recul. Comment on garde le recul sur un sujet dans lequel on est tellement engagé?
Oh bah, je pense que c'est pareil pour l'humour en général. De toute façon, on prend un sujet quel qu'il soit, mais un sujet pas drôle, et on arrive à faire rire les gens et leur faire les réfléchir. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est parler dans mon premier spectacle, je parlais même des femmes battues et j'avais fait rire avec ça. Bon, je m'étais pris la pita et puis tous les amis des animaux sur le dos parce que j'ai fait une comparaison avec un chat qu'ils avaient pas aimé, qu'ils avaient rien compris. Mais tant pis, on n'est pas toujours compris, voilà.
Le rire, c'est aussi une prise de risque.
Mais oui, et puis le problème, c'est que les gens pensent que quand t'es féministe, t'aimes pas les hommes. Alors c'est pour ça que moi, je passe mes journées à dire que j'aime les hommes. J'ai aucun problème. Au contraire, j'adore les hommes. Tous. J'ai vraiment plus, à mon âge, j'ai plus de critères. Vraiment.
Mais vous n'aimez pas les chats, par contre.
Alors, j'aime plus les êtres humains que les animaux, j'avoue.
Et vous plaidez toujours la cause des femmes. En tant qu'ancienne avocate, on sent très bien l'avocate qu'il y a derrière, avec les articles de loi. Vous citez des aberrations du Code civil, d'ailleurs. Ouais. Donc, vous faites différemment, vous plaidez différemment. Est-ce que, aussi plus massivement et plus efficacement, peut-être?
C'est-à-dire qu'il y a moins de vannes que quand je plaidais aux assises. C'est sûr, c'était tellement drôle, les assises. Mais en fait c'est différent, c'est-à-dire qu'avant je défendais quelqu'un pour un dossier très précis et j'avais la sensation d'être utile pour une personne, mon client. Et des fois on ratait, hein, on va pas se mentir. Et puis des fois là j'ai l'impression de plaider de façon plus générale pour une cause, mais une cause que j'ai touchée du doigt vraiment quand j'étais avocate notamment parce que j'ai défendu quand même j'étais au contact avec des femmes qui ont été violées, agressées violemment plusieurs fois. Parce que faut le savoir, aux assises ça va être hyper drôle ce passage, mais aux assises sur les crimes, c'est 80% de viols, 10% de meurtres, 10% de braquages. Donc il y a énormément de viols aujourd'hui en France. Et on commence seulement à se rendre compte parce que les femmes le disent. Mmh. Mais c'est drame.
Il y a un côté pédagogique, je trouve. Alors, moi j'ai appris des choses, je ne savais pas que le mari pouvait lire le courrier de sa conjointe jusqu'en 1975.
Oui. Bah, je sais pas, peut-être qu'on ne savait pas bien lire, que des fois il y a un mot qu'on ne comprend pas, il est là pour nous aider, tu vois.
Et oui, donc ça c'est hyper pédago, et donc je me suis dit, mais en fait, à partir de quel âge on peut venir avec sa fille, même, peut-être même encore plus son fils, pour voir votre spectacle? Je trouve vraiment qu'il y a un truc à... Parce que ça sauve le débat après.
Alors, honnêtement, moi je l'ai mis à le voir, ils ont 9 et 13 ans, donc ça fait des années qu'ils le voient, mais parce que je ne parle sans tabou aux enfants, donc si vous parlez à vos enfants sans tabou, amenez-les. En revanche, je dis la vérité, il y a un passage à la fin sur le plaisir féminin qui est aussi un énorme tabou. Le sexe féminin, on n'en parle jamais. Enfin, tout à l'heure, on parlait des clitoris qui ont été placardés dans tout Paris. Mm-hmm. Mais il faut savoir que le clitoris a été correctement représenté dans un manuel scolaire pour la première fois en France en 2017.
Ah bah voyez.
Ouais, coup, c'est pour ça que les gars vous c'est voilà,
c'est pour ça que c'est parce qu'à l'éducation nationale, ils l'avaient pas trouvé encore. Ah, ils n'avaient pas de représentation.
Bah on a une prostate depuis 20 ans, hein. Avant on en avait pas. Donc merci messieurs de l'avoir trouvé.
Et ce spectacle a commencé un peu après MeToo, si voire même peut-être avant.
Avant.
Ouais. MeToo, ouais. Donc comment on l'a fait évoluer, parce que il y a eu les 2-3 années sans public, sans théâtre, et là vous c'est l'apogée, c'est l'Olympia, donc c'est 4 grosses dates. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ce que vous y racontez?
Ah oui, j'en ai réécrit presque la moitié pendant le Covid. C'est pour ça qu'on a changé l'affiche, pas le titre, parce que tout le passage sur Adam et Ève, je l'ai gardé parce que, en fait, en faisant des recherches, je me suis demandé pourquoi est-ce que les gens étaient aussi misogynes, pourquoi ces lois misogynes, pourquoi la femme est soumise à l'homme dans le monde entier, en fait. Et ça remonte à Adam et Ève. Mm-hmm. Un conte qu'on va quand même trouver dans 3 religions bien sympathiques sont le catholicisme, donc chez les catholiques, chez les juifs, chez les musulmans, des mecs qui sont quand même rarement d'accord, voire jamais, mais alors sur la soumission de leur femme, ils sont tous d'accord. Et ça part de là pour ensuite dire que comme on a croqué la pomme, on va être soumise à notre mari, et donc les lois qui vont être édictées.
Et là, d'une certaine manière, vous vous affranchissez aussi de votre éducation catholique.
Ah,
c'est venu quand, ça?
C'est venu déjà quand on m'a dit que Dieu était un homme. J'ai dit, ah d'accord, mais on m'a expliqué qu'on ne sait pas si Dieu existe, mais on sait que c'est un homme. Déjà, ça, c'est quand même étrange. En plus, comme on sait que Dieu va créer l'homme à son image, que les premiers hommes étaient africains, moi, je le dis clairement, Dieu est très probablement une femme noire.
Ouais. Vous avez beaucoup de bons retours sur cette partie du débat.
Tous les soirs, j'entends crier, c'est bon, au secours.
Mais donc, est-ce qu'il y aura des choses spéciales pour ces Olympias? Est-ce que vous allez avoir un grand gâteau d'anniversaire de fin de semaine.
Oui,
et
puis sur
les
surprises. Avec des plumes, ça va être magnifique.
Sur les surprises.
Il y a une,
pour les
y a une très grosse surprise.
Vous aurez déjà vu et aimé ce spectacle.
Il y a Pascal Praud qui vient pour la partie.
Non, parce qu'on a fait une mise en scène spécifique pour l'Olympia. Ouais. Déjà, et avec quelque chose qui a été jamais fait en France, avec des projecteurs, qu'on a les plus gros projecteurs qui existent en Europe, et on va projeter des choses sur les murs pendant que je joue.
Oh, d'accord.
Donc, si ça marche. Ça va être génial.
Et allez tester, allez voir l'expérience.
Voilà. Est-ce que ça va être un peu subversif donc dans le fond?
Évidemment. Enfin, en fait, c'est pas besoin du fond parce que déjà moi, je suis assez subversif. J'entends des tout le long du spectacle, donc ça me fait rire. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'en ai, je vais encore plus loin. Et là, en la réécriture, je suis allée encore plus loin. C'est, enfin, on le sait, tous les gens qui font de la scène le voient. Au bout d'un moment, tu t'habitues à tes vagues, tes blagues, et elles te font même plus toi vibrer. Mmh. Donc du coup, tu te dis tiens, en fait, je peux aller plus loin, et tu t'autorises à aller plus loin. Mmh. Et là, je crois que j'ai plus beaucoup de limites.
Avec un sens du rythme qui est assez précis.
Oui, c'est vrai que j'aime bien ne pas les lâcher quand on commence et faire monter. Et plus ça va loin, puis même ça est devenu un gimmick, je le dis, allez, on va plus loin. On en parle du point G, je leur dis où il est, allez, on va plus loin, on va parler de...
Alors, on a parlé clitoris.g subversif.
Énorme, on a une grosse
audience. Il paraît que la vente des places est montée en flèche déjà. Oui, c'est vrai que monsieur Poulpe, vous êtes un spécialiste.
Ah, moi j'adore ce
Mais oui, c'est vrai.
Super. Ça fait voyager cette
émission. Eh ben, vous allez voyager avec nous jusqu'à 18h. Caroline Vigneault est en notre compagnie. Et donc, elle croque la pomme à l'Olympia à partir de demain jusqu'au 16 avril. Et puis, elle est en tournée. Je donnerai encore quelques dates qui restent pour aller la voir. Une petite programmation d'entre-deux-tours, j'ai l'impression, de la part de Joubacca.
Qu'est-ce qu'il a choisi ?
Bah, les vents passent.
Ah !
C'est politique, évidemment.
Je me lève pendant la nuit pour voir le soleil briller. Mes enfants écoutent Booba, ils ont le droit. Il y en a qui n'aiment pas les Smiths, d'autres qui n'aiment pas la police. Faut de tout pour faire un monde, c'est politique. C'est politique. C'est politique. C'est politique. C'est politique. Je prends mon vélo le matin et je vais voir ma mère à l'EHPAD.
Ben oui, c'est par Jupiter, sur France Inter, avec Caroline Vigneault qui nous accompagne,
ainsi que Guillaume Meurice qui est allé prendre le pouls de la France,
tout
encore
à
une
fait,
fois.
C'est exactement
qui vont voter ces gens, on va le savoir.
Eh ben, vous le saurez à 17h35.
Monsieur Poulpe, évidemment, dans ce qu'on appelle, je dirais, un happening.
Oui,
et une performance. Et Sorante qui a lu beaucoup de pages parce que le livre est énorme. Qui se
énorme, presque 1000 pages.
1000 pages.
Oh là là.
Pas lu ça dans toute ma vie.
Beaucoup de brèves, ça ferait pour vous, hein, dans le journal.
Mes chers compatriotes.
Française, français.
Quand Marine Le Pen est venue à Béziers, on a passé 4 heures, mais elle est sympa.
Le journal de presque 17h17.
Je vais peut-être avoir l'air grotesque en disant ça, mais j'imagine que Hitler, si vous parlez juste de chien, ça, on peut être ça, sympa.
On commence par les titres.
La France a annoncé l'expulsion de 6 espions russes.
Voilà, très bon début, mais il faut probable qu'il en reste encore un petit peu sur le territoire. Il y en a même une qui pourrait être élue à la présidence très bientôt.
Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait voter pour Emmanuel Macron au second tour.
Fin d'un suspense insoutenable. J'ai pas autant été tenu en haleine depuis que j'étais voir Titanic. Je suis il va couler ou pas ce bateau. Non,
il est brève.
Gros suspense, Charline.
Ah oui,
il y en aura.
Ouf.
Catastrophe. Pas tout changer comme ça d'un coup.
Nicolas Sarkozy a donc annoncé ce matin qu'il votera Macron au deuxième tour.
Et oui, et il a ajouté qu'il aurait fallu voter Pécresse au premier tour. LOL. Bien sûr, c'est pour voir si vous suiviez.
Eh bien, pour Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, la position de Sarkozy n'est pas celle de sa famille politique.
Eh oui, l'ironie, c'est que pour trouver une famille dont les membres sont aussi divisés, eh bien, il faut regarder du côté de chez Le Pen.
Et de son côté, Lionel Jospin annonce qu'il votera pour Macron au second tour.
Voilà, Pierre Joxe, Roland Dumas, Jean-Claude Godin doivent encore se prononcer et pourraient peser énormément, notamment sur le vote des jeunes. Ils sont très impatients.
Invité sur France Inter ce matin, Marine Le Pen déclare qu'elle ne veut pas d'Éric Zemmour à Matignon.
Et voilà, pour la première fois, je suis d'accord avec une idée de Marine Le Pen. Coup dur, bien évidemment.
Marine Le Pen qui charge le voile, elle le qualifie d'uniforme islamiste.
Ah, voilà, bon, on comprend mieux pourquoi elle ne veut pas qu'Éric Zemmour soit dans son gouvernement, puisque son esprit y est déjà largement.
Emmanuel Macron, lui, se dit prêt à ouvrir la porte à un départ à la retraite à 64 ans au lieu des 65 précédemment envisagés.
On est sur de la négo un peu, hein, Manu. On voit bien que Manu, il a peur d'avoir sa retraite anticipée le 24 avril prochain. On le sent un petit peu fébrile.
Et puis sur RTL, Jean Castex a été interrogé sur son trajet en jet, en Falcon, pour aller voter.
J'ai utilisé les règles habituelles qui s'appliquent au Premier ministre. Hein. J'ai pris un avion, j'entends dire que j'ai affrété un jet privé, etc. J'ai pris l'avion de l'État, hein, voilà. Le Premier ministre, il faut qu'il soit à Paris très vite s'il y a le moindre problème. Voilà, donc je comprends qu'on veut faire... La période est aux polémiques, n'est-ce
oui, pas oui, c'est polémique la période. Alors je rappelle donc la règle hein, pour les Premiers ministres, je ne la connaissais pas. Donc c'est le droit d'user du foutage de gueule à foison et de nous le rappeler si on se fuit. Et évidemment, l'interdiction absolue d'utiliser la procuration, ça c'est interdit chez un Premier ministre. Pardon.
Jean Lassalle a annoncé hier qu'il avait fait un don au PS, aux Républicains et à Europe Écologie Les Verts en déclarant « on a souvent besoin d'un plus petit que soi ».
Jean Lassalle qui est tellement en mode vanne, il est en bonne voie d'intégrer l'équipe de chroniqueurs de cette émission, c'est cadeau, c'est une main tendue jamais.
Enfin c'est une traduction, hein, parce qu'il a dit
oui, l'articulation.
Une page détente maintenant, oui. Sachez que le parc Disneyland Paris fête officiellement ses 30 ans.
Eh oui, autant dire que Yann Moix n'aura plus trop envie de rentrer dedans.
People toujours, libérée de la tutelle exercée par son père, Britney Spears a annoncé être enceinte de son troisième enfant.
Oups, she did it again.
Ah, mais voilà, bien sûr.
Il faut la référence.
Faut être amateur de musique.
Une page de sport, la 14e édition du championnat anglais de portée d'épouse.
Et oui,
s'est déroulée dimanche à Dorking.
Et compétition où les coureurs doivent porter leur femme. Alors généralement la tête en bas et les jambes autour du cou, comme ça. Et faire un parcours de 380 mètres parsemé d'obstacles. Autant vous dire que je suis pas sûr que Sandrine Rousseau va militer pour en faire un sport olympique. Mais
ok, voilà. Et qu'est-ce qu'on gagne?
Eh bien, c'est là que c'est beau. Ah. La récompense, c'est le poids de sa femme en bière. Et oui, parce que du coup, plus gros est le fardeau, plus belle est la récompense. Et là, je dis chapeau.
Magnifique. Et on n'est même pas encore au bref. Et
non, c'était pas une brève. Non, je l'avais mis avant pour vous piéger. J'ai mis en sport, mais j'avoue que c'est un peu une arnaque. Au Brésil, une commande de 35 000 comprimés de Viagra pour l'armée a fait jaser le pays. Et j'espère qu'au Brésil, l'armée ne bizute pas les petits nouveaux comme on le fait en France. Sinon, ils vont dépenser une fortune en cirage.
Et la dernière,
d'après les recherches scientifiques des Britanniques, les champignons communiquent entre eux avec un vocabulaire de 50 mots. Et c'est fou de se dire qu'il y a des candidats de télé-réalité qui ont moins de vocabulaire qu'un pleurote.
Merci Alex Bizarrec. Demain, vous nous abandonnez vous jouez à Bagnole.
Avec des petits copains. Il y aura Fromet, il y aura Pablo Mira, tout ça.
Très bien. Ah oui, Pablo Mira, c'est RTL.
Oui, qui
sait. Allez, Caroline Vigneault est avec nous et on va aborder ce premier thème. À Paris, les candidats et les candidates ont un clitoris à la place du visage. Les militantes féministes de Nous Toutes ont collé des dessins de clito sur les affiches de campagne. Les activistes estiment que les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, en général, sont passées à la trappe. Le lors du débat de la campagne. Alors que, je les cite, le sujet est de plus en plus visible dans les médias et que les manifs rassemblent beaucoup de gens dans la rue. Après, c'est indécent, ne vous offusquez pas, c'est de l'art.
Est-ce que la forme féminine vous met mal à l'aise, monsieur Lebowski?
C'est ce que représente ce tableau?
Oui, en un sens. Mon art impressionne beaucoup par son côté vaginal. Les hommes en sont déstabilisés, le mot en lui-même les perturbe énormément. Vagin. Ils n'aiment pas l'entendre et le trouvent difficile à prononcer, alors que sans même battre des cils, ils parlent volontiers de leur bite, de leur dard ou encore de leur zézette.
Zézette.
Trêve de discussion, monsieur Lebowski. Venons-en au fait.
Extrait, évidemment, de The Big Lebowski, le film des frères Cohen. Traduction française, donc...
Oui,
on perd, bon, on perd un peu sur la zézette.
Exactement.
Caroline Vigneault, j'imagine que le mode opératoire de nous toutes en mettant des dessins de clito sur les visages des candidats vous a séduit, non?
Oui, de toute façon, moi je suis tout à fait pour qu'on démocratise le clitoris. Rien que de pouvoir le dire, rien que de dire, c'est pas un mot sale. Mm-hmm. Et ce que l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est exactement ça. Ouais. Les filles n'osent pas le dire, n'osent pas en parler. La masturbation est un total tabou chez les femmes, alors que chez les hommes, absolument pas. C'est une religion.
Mm-hmm. Mais, ils s'en vantent même.
Mais oui, ils s'en vantent. Ils font ça en groupe, ils s'amusent, puis c'est bien. Et puis,
ça, c'est faux. Not in my name. Ça reste un sport individuel.
Alors, c'est en France, parce que c'est pas d'ici. Mais vous n'entendrez jamais une femme dire ah oui, je pratique la masturbation, etc. Alors que c'est en train, heureusement, de se démocratiser, notamment même avec les sextoys qui deviennent maintenant gays, jolis, avec des couleurs, des petits noms. Et tant mieux, parce que franchement, c'est un plaisir, il est gratuit, et ça fait du bien. Donc pourquoi s'en priver?
Et vous faites le même constat que nous toutes, vous avez tendu l'oreille au débat un peu pendant la campagne, en guettant le moment où on allait parler des violences sexuelles?
Bah, bien sûr, parce que c'est un drame absolu en France. Alors, grâce à MeToo, maintenant, on a à peu près la taille de la vague. Avant, on ne savait pas. Et même moi, je m'en suis rendu compte, c'est-à-dire qu'en discutant avec mes amis, faites l'exercice dans vos familles, vous verrez. Demandez à vos sœurs, vos mères, si elles ont été agressées, et vous verrez que le constat est dramatique. J'ai pas une seule de mes amies qui a pas été agressée. Pas une. C'est simple. Et moi-même, la première, on y est toutes passées. Et on le faisait, on le disait pas parce que c'était normal. Ça fait partie, on était éduqués pour éviter, justement, ces trucs-là. Ouais. On nous demandait, on apprenait à éviter le viol, mais on n'apprenait pas aux garçons à ne pas violer. Puis ça vient d'une éducation, d'un système où on poussait les garçons, mais pour tout, même pour sauter dans les arbres, et descendre des arbres, aller sauter, t'es pas une fille, t'as pas peur, arrête de pleurer. Et les filles, non, reste là, reste près de maman, il va rien t'arriver. C'est un vrai drame. Et le drame actuel, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même tous les deux jours et demi une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. Et c'est 400 000 violences par an. Ça fait 600 appels par jour à la gendarmerie ou à la police pour celles qui peuvent appeler. Hein. Donc,
Heureusement, il y a une femme au second tour, mais elle est xénophobe.
Heureusement,
le seum, non.
Ah non, mais c'est un drame pour les féministes parce que je sais pas, ça va être après on va pouvoir dire bah vous voyez dès qu'il y a une femme au pouvoir, vous voyez bien, elles font n'importe quoi, elles disent que la Crimée ça a pas été annexé, tout ça, elles sont amies avec Poutine, vous voyez, c'est n'importe quoi les femmes. Alors c'est pas toutes les femmes, et après ce qu'il faut se dire,
c'est vrai que la candidate est amie avec Poutine. Et oui. Ça c'est pas mal.
C'est quand même, faut le dire.
Et elle est misogyne, faut le dire aussi.
Elle
parle d'IVG de confort, etc.
Ah bah, IVG de confort, je peux mourir à chaque fois que j'entends ce mot-là. Vraiment, j'ai envie de décéder. Mais c'est un drame. Mais il y a une chose qui est positive, c'est de se dire que chez les femmes comme chez les hommes, on peut être aussi mauvais, aussi misogyne, aussi méchant, aussi nul que chez les hommes. Donc voilà, et c'est d'ailleurs Giroud qui le disait, la vraie égalité, c'est qu'on pourrait être aussi mauvais que vous, messieurs.
Et voilà, qui est bien dit. Caroline Vigneault avec nous. Et Monsieur Poulpe, vous qui venez de prendre une petite gorgée d'eau.
Toujours.
Vous êtes humecté.
Je m'humecte très régulièrement.
Afin de pouvoir dérouler une chronique.
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour Monsieur Poulpe.
Vous
bonjour.
Allez bien?
Oui.
Dans votre confort de petit bourgeois. Pendant ce temps, il y a des gens qui souffrent. Vous n'avez pas honte, Caroline Vigneault, à faire l'Olympia et porter des beaux habits et vos cheveux trop bien coiffés, à me rappeler sans arrêt un crush que j'avais qui ne voulait pas de moi et que c'était vous. Pour qui vous prenez-vous enfin? Je vous rappelle qu'il y a des gens en ce moment même qui sont en pleine douleur, et je parle pas des gens qui écoutent les chroniques de Maurice en replay. Vous êtes là à passer du bon temps, c'est obscène. Alex Vizorek, vous, ça va, votre visage est en adéquation avec la souffrance. Et vous, Charline, à étaler votre épanouissement, ma mère, à la vue de tous, ils sont là, les deux, à vouloir attirer l'attention. Bonjour Pierrick, bonjour Stéphane. Vous me manquez. Bref, alors face à la souffrance de ces gens qui ont tout perdu, j'ai décidé de faire une chanson. Alors je sais ce que vous dites. Oui, il est charismatique. Oui, c'est un mâle alpha. Oui, il réussit tout ce qu'il entreprend. Oui, mais il n'empêche que j'ai une sensibilité. J'ai une fragilité. J'ai des fêlures. Un zizi trop mignon. J'ai des failles. J'ai donc décidé de faire une chanson pour ces gens qui n'ont plus rien, noyés par le chagrin. Je parle bien sûr des gros losers politiques qui ont perdu au premier tour. T'étais la trace de pneus dans la course au sondage. Tellement souffert au suffrage, tu t'es offert un naufrage. Kéblo dans les votes, prisonnier comme un Ouïghour. Façon Schumacher, tu verras jamais le second tour. Recalé, mal aimé, t'as plus que tes urnes pour pleurer. C'est bali-balo entre échec et défaite, t'es ballotté. Mais ce soir, je t'offre un passe-pouc, un carré VIP super exigeant. T'as accès à l'after du club des presque zidans. Tu seras accueilli par Jospin en Monsieur Loyal. Au barba, la dure te passe un Kirsego Royal. La DJ, la guillette, ta guichet, remix l'international. Les femmes ont de beaux colliers, même Robert Rue est dans la salle. Les lumières sur la piste s'agitent plus que les électeurs pour toi. Fais comme les Français next time, dans le doute, abstiens-toi. Dans le club des vires et premier tour, les cravates se dénouent. C'est dans l'échec qu'on avance et vous avancez beaucoup. Je fais des vibes un peu R&B ou un peu R&B. Okay, R&B. Pécresse fait malgré tout beaucoup pour l'environnement. Dans ses joues et dans son nez, il y a tout le plastique des océans.
Non.
Et au bar du club, tu noies ton seum. Yannick Jadot, vous étiez que trois à parler du GIEC. Toi, Mélenchon et son ego. Éric Le Z, tu sais que ça fait. Tu sais ce que ça fait d'être un rebeu recal en boîte, ça fait mal. Mais ici tu peux boire ce que tu veux, pas de Negroni, plutôt un White Russian. Bref, beaucoup de bruit pour rien, comme cette chanson Sexy Love. À l'inverse de votre campagne, la chenille redémarra. RIP, vos urnes sont devenues funéraires. Au pire, vous finirez dans un costume chez Massinger. Merci de m'avoir écouté. Je donnerai toute la SACEM à Valoche pour qu'elle puisse se rembourser. Charlie,
oui,
démerde-toi, oui, pour la conclusion de cette chronique.
Merci mon gros bébé. Laissez exprimer mon mi bémol sur cette antenne avec toi. Oh. Avec toi. Oh. Et ça va être dur derrière de passer Curtis Harding Forevermore, mais ça va enchaîner. Merci Monsieur Poulpe.
Bravo.
On peut vous réécouter, c'était trop bon, et vous voir en vidéo sur YouTube. Okay. Merci Poulpinou.
I'm really sure the feeling is me.
Chris Harding, Forever Me sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter en compagnie de Caroline Vigneault, qui sera à l'Olympia à partir de demain, mais aussi le 21 avril. Quelle belle date! Allez passer un 21 avril à Franconville, plutôt, le lendemain à Clichy-la-Garenne. J'ai lu, Caroline Vigneault, que l'actuel garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, vous avait déconseillé de faire du spectacle.
Oui.
En même temps que, oui, qu'exercer votre métier d'avocate.
Oui, c'était ma première émission avec Stéphane Bern, ça s'appelait La Reine de France.
Ouais.
En un seul mot, la reine. Et il était invité. Et à ce moment-là, je faisais des chroniques. Et j'étais encore avocate. Et donc, il est venu me voir. Et à la fin de l'émission, il m'a dit « Caroline, il va falloir que tu choisisses. Tu ne peux pas faire des chroniques et faire du spectacle comme ça. Et être avocat, et ça n'est pas compatible. »
Alors qu'aujourd'hui, tu peux être garde des Sceaux et faire des spectacles.
Ouais, mais il l'a été quand il était avocat, déjà.
Oui, bien sûr,
évidemment.
Mais on en a parlé. On en a parlé plusieurs fois.
C'est le genre qui change d'avis, parce qu'il avait dit « Je ne serai jamais ministre.
Exact.
Et voilà, il faut que je l'avais dire, je n'écouterai jamais Guillaume Meurice car il est à tous les jours de toute façon.
Mais oui, c'est obligatoire. Mais je suis retourné dans la rue, figurez-vous, parce que l'ambiance à Radio France est un peu étouffante. Faut dire qu'ici le score d'Hidalgo a été dur à vivre. Hein. Oh la vache, si la maison de la radio était un pays, elle aurait eu 98% des suffrages, je pense, à part 2-3 techos là que je vois de Lutte Ouvrière et notre réalisateur qui est de droite. Bon, sinon c'est vraiment Véliblanc. Mais comment les Français vont se positionner? C'est ça qui m'a intéressé aujourd'hui. Alors on sait que Jean-François Copé va voter Macron. Ça, c'est, c'est quand même une info importante. Ça pourrait faire basculer les choses. On apprend déjà que Jean-François Copé est toujours vivant. Ça, bah, déjà, c'est sûr. Même lui, il a dû dire, ah la vache, je suis là. Nicolas Dupont-Aignan, il a appelé à voter Le Pen. Sans surprise. Ça pose quand même une question. Quel est le con qui a encore demandé son avis à Dupont-Aignan? Ah, ça, c'est vraiment, on ne sait pas. Et les Français et les Macronistes, alors. Ceux qui ont voté Macron au premier tour, je suis allé les voir ce matin, et ils sont un petit peu confiants, malgré le danger Le Pen.
Non, arrêtez. Elle s'appelle Le Pen, donc elle ne sera jamais élue, il faut être réaliste. Donc si vous voulez, la pauvre fille, à chaque fois elle est au deuxième tour, mais moi j'y vois d'elle, j'irai même plus. Quoi, parce que...
Mais là, les sondages, en tout cas, se resserrent.
Oui, c'est dur comme ça au premier tour, soyez réaliste, jeune homme.
Ouais, non, mais
c'est comique. C'est une bonne journée.
Peut-être trop de confiance, je dirais peut-être. Ils se foutent de ma gueule, en fait, carrément. Les macronistes, on dirait les Français avant le match contre la Suisse à l'Euro. Voilà. Et en plus, leur Mbappé, c'est Castaner. Je ferais un petit peu moins les malins. Mais c'est vrai qu'il y a de la confiance dans l'air.
Second tour, ça va être Macron qui va gagner.
Ouais.
Sûr et certain.
Ouais, c'est pas sûr encore, là, c'est serré quand même.
Ouais, mais les Français, c'est des bœufs.
Ouais.
C'est des bœufs, les Français. Ils sont révoltés, les manifs, les trucs. Arrivé au vote, pac.
Mais alors, est-ce que vous êtes Français?
Moi, je suis Français, mais
bien sûr. Les autres bœufs de France, allez les bœufs, comme on dit. On dit qu'on est arrogant. Oh, c'est vrai qu'on est des bœufs arrogants. Bœuf arrogant, ça pourrait être une bonne définition du mec qui vote Macron, parce que ce monsieur, il va voter Macron.
Oui, moi je veux du Roland, je vais voter Macron. Voilà.
Ouais.
Voter Macron, voilà.
Mais au premier tour, vous aviez voté qui?
Au premier tour, j'ai voté Zemmour.
Ah ouais?
Ouais, franchement, j'ai voté Zemmour. Franchement.
Mais alors pourquoi vous n'allez pas voter Le Pen alors?
Non, si aurait été Zemmour, j'aurais voté pour lui.
Mais pourtant, c'est extrême droite, extrême droite, non? C'est surprenant.
Moi, je trouve qu'il est un peu moins que Le Pen.
Oui, alors ça nous avait échappé. C'était pas évident que Zemmour est un peu moins d'extrême droite que Le Pen. Alors c'est vrai qu'il vient d'Algérie, Zemmour. Donc dans son sang, il y a plus de semoule que de choucroute, quand même, faut reconnaître. Alors ceci dit, ce monsieur à qui je parlais était d'origine tunisienne. On a donc un mec d'origine tunisienne qui vote Zemmour au premier tour et Macron au deuxième parce que Marine Le Pen est trop raciste. on en est là. Voilà, la Fédération nationale de luxation du cortex est sur le coup. On a un spécimen, mais alors comme spécimen, j'ai encore mieux que ça. J'ai le macroniste de gauche. On dit toujours qu'il existe, mais on l'a jamais vu. C'est un peu comme le Yeti ou la fan d'Alex Vizorek de moins de 63 ans. Mais je l'ai croisé ce matin. Pas la fan d'Alex Vizorek, mais le macroniste de gauche. Comment il peut être macroniste et de gauche?
Alors, j'ai un sens social à peu près développé, normalement développé.
Un sens social qui justifie la baisse des APL, par exemple, et la suppression de l'ISF.
Ah, c'est pas un drame, les 5 euros, non. Enfin, il a quand même baissé les impôts. Moi, mes impôts ont baissé, par exemple.
Ouais.
Je suis content.
Parce que vous aviez les moyens d'en payer, peut-être.
Peut-être.
Ça joue. Si ça se trouve, ça joue. Faudra vérifier. Hein, et ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, ils se rendent pas compte de ça. Parce qu'ils pensent qu'à leur gueule, ces gens-là. Hein, ces égoïstes. Ils pensent pas au bonheur du macroniste de payer moins d'impôts. Macron, il distribue de la joie. C'est un petit peu le Rémi Bricard de la politique. C'est pour ça qu'il va gagner. Pourquoi d'autre?
Bon, d'abord, y a un épouvantail qui est Le Pen.
Hein, ouais, ça va suffire, ça?
Oh, oui, je pense. Ouais.
Il faut qu'il recule sur la retraite à 65 ans.
Oh, non, surtout pas.
Non.
L'espérance de vie augmente.
Mais l'espérance de vie augmente parce qu'on bosse moins longtemps.
Non. Non, parce que...
Non, on est sûr. Vous êtes sûr de votre coup?
C'est Vicelard comme argument.
Ouais. Alors j'avoue que se faire traiter de Vicelard par un macroniste de gauche, c'est quand même une sorte de performance. C'est de l'art contemporain. Hein, Jeff Koons, si tu le regardes, j'ai envie de dire. C'est de l'art, c'est comme justifier les violences contre les gilets jaunes.
Ce mouvement, vous l'avez compris, vous
Est-ce qu'il méritait qu'on leur tire dessus au flashball?
Oui, oui.
Oui, vraiment?
Oui, oui.
Et de là à arracher les mains et crever des yeux?
Ils ne vont pas arracher. Il y a eu aujourd'hui des bavures, mais ça ne s'appelle pas... Il n'y a pas un acte délibéré d'aller arracher les mains. Ah bah,
Par exemple, quand on tire au flashball comme ça dans la tête des gens, il y a un risque qu'ils perdent un œil.
Mais le flashball, c'est pour pas tuer les gens.
Ah voilà, oui, bon, on en est là, on en est là. Merci Macron de pas avoir tiré à balles réelles. Donc, même s'il y a eu des morts quand même, c'est peut-être juste ça la différence entre Macron et Le Pen, c'est le calibre. Hein, voilà, tout ça à cause de cette Ve République qui n'en finit plus de ne plus crever, dis donc. Alors, possible.
Guillaume Meurice, voilà. On va bien s'amuser encore pendant 15 jours, ça va être bien.
Il y a une grosse confiance. Hein,
j'ai un petit peu chaud dès que vous prenez la parole. Donc... 17h43.
Ça va pas aller en s'arrangeant.
Sur France Inter, Caroline Vignon va aborder ce deuxième thème. Si le second tour vous rend malade, dites-vous que la semaine dernière, c'était les pizzas Buitoni et que ça mène dans un autre genre d'isoloir. L'ONG Foodwatch alerte sur l'opacité de l'industrie alimentaire à ce sujet et le manque de moyens alloués aux autorités sanitaires alors qu'il suffirait d'enquêter davantage.
Bon, la fricadelle, comment ça se passe une fricadelle, concrètement? Ça va deux choses. Ça va que je suis une bête de 700 kilos. Il y a 350 kilos qui sont considérés comme matière ou reste impropre à la consommation. Je vous dis pas là, vous verrez jamais dans une boucherie des narines, un scrotum, un anus ou des intestins, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait avec les intestins? Les intestins, ce n'est jamais que de l'air digéré, hein. On appelle ça plus communément de la merde, pour votre information. Et qu'est-ce qu'on fait? On racle tout ça, on tape tout dans des grandes bassines, nous autres on appelle ça des piscines, puis on rajoute des produits. Les produits c'est quoi? C'est des anxiolytiques, des antibiotiques, des colorants, des... Enfin, bon, ça c'est notre petite popote, c'est le pot belge, comme on dit. Une fois que cette matière à nouveau l'aspect de la viande, on l'enfile dans des boyaux, et puis ça part dans les friteries, dans le commerce, entre guillemets.
Bon appétit, bien sûr. C'était un extrait de Dickeneck avec François Damiens dans un film d'Olivier Van Hoffenstadt. Caroline Vigneux, vous avez proposé d'aborder le sujet de l'agroalimentaire, de l'industrie de l'alimentation jusqu'au lobby. C'est cette série de scandales qui vous a soufflé le sujet ou pas du tout?
Non, non, ouais. J'ai effectué une mutation en fait en commençant à me renseigner un peu parce que je cherchais au départ des pistes un peu sur d'abord ma vie et puis mon prochain spectacle.
Ouais.
Et quand j'ai commencé à gratter au niveau de l'agroalimentaire, c'est devenu un drame absolu pour ma vie parce que j'ai réalisé que je fais partie de cette génération sacrifiée d'enfants qu'on a nourris à l'agroalimentaire en disant que c'est génial, les surgelés, etc.
Ouais.
En plus, à l'époque, il n'y avait même pas besoin de nous dire ce qu'il y avait dedans. Et quand aujourd'hui on commence enfin à prendre le temps, prenez le temps, je vous en supplie, de lire les petites étiquettes, c'est écrit en tout petit, mais c'est très intéressant de voir que dans du jambon, vous avez 80% de jambon. C'est très intéressant parce que vous dites, mais il y a 20% de quoi, du coup? Et c'est du sucre, c'est de l'eau, c'est des trucs qui sont cancérigènes. Et alors, c'est vrai qu'en disant ça, même moi, je me saoule, je me dis, oh là là, ça y est, encore une qui va marcher pieds nus et qui va pas se laver les cheveux. Mais non, pas du tout. En fait, c'est pour notre santé et pour vivre mieux. Hein. Donc vraiment, faites attention à ce que vous bouffez. Je dis aux gens, enfin, t'achètes une Ferrari, regarde, t'achètes une Ferrari, ouais. Tu vas dans un beau garage avec une grosse moquette, tu vas faire attention, surtout tu vas pas lui mettre n'importe quelle huile, tu vas aller acheter l'huile la plus chère. Et pourtant ta Ferrari, même si tu la plantes, tu peux changer l'aile. Alors que nous, ouais, dans notre corps, c'est plus qu'une Ferrari, on met n'importe quoi. Ouais.
Mais parfois on n'a pas le choix. Par exemple, ce genre de scandale n'arrive jamais chez Fauchon. Il y a jamais le jambon de Tarbes de chez Fauchon qui est rappelé en urgence.
Alors non, ce qui est vrai, c'est sûr, c'est que la malbouffe touche bien plus les pauvres, ouais, parce que bah, le sucre c'est pas cher, donc on en fout plein dedans, ça fait grossir. Enfin, faites une photo aujourd'hui de la population et de l'époque de nos grands-parents, regardez l'obésité. Il y a même pas besoin de discuter, c'est est-ce qu'il y a un problème ou pas. Oui, il y a un problème. Le problème, c'est la bouffe.
Donc, vous, Charline, vous, le conseil que vous donnez, c'est plutôt d'aller chez Fauchon.
Oui, moi, d'accord. C'est non, conseil, c'est, vraiment.
C'est, si les gens qui nous écoutent, parce que c'est souvent les gens hésitent, hein.
Mais oui.
Lidl, voilà. Fauchon,
et
Lidl.
Vous, et vous mangez peu?
Non,
de qualité. Un petit macaron, non, un petit macaron, la durée.
Non.
Mais vous prenez,
non,
un couteau, une fourchette.
Non.
Miette par miette. C'est un repas.
Non, il faut manger non transformé. C'est ça, la règle.
Oui, c'est ça.
Non transformé. Pour le même prix, vous allez acheter une pastèque, un melon, n'importe quoi.
Donc vous transformez vous-même, donc vous êtes excellente cuisinière?
Absolument pas, je suis un drame. Je ne sais pas, je mange cru, je mange que des trucs faciles à faire, des pommes, des bananes. Je fais même plus les pâtes parce que les pâtes c'est transformé. Donc ouais, je mange, j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté la caféine, je vais beaucoup mieux.
C'est vrai.
Et on a l'impression qu'on est chiant quand on dit ça,
mais
je vous jure que non, on va mieux et on s'en rend compte et on peut manger facilement.
D'accord.
Et alors, pour moins cher.
Vous scrutez les Nutri-Score, vous avez l'appli sur le téléphone et tout pour regarder tout ça?
Ouais, alors les Nutri-Score non, mais c'est ce qu'il y a dedans, les ingrédients, moi j'aime bien savoir.
Ah ouais.
C'est le plus important,
d'accord,
le Nutri-Score. Ouais. Ouais.
Vous faites ça, monsieur Poul, pendant que
je suis végétarien de ouf,
ouais,
moi.
Ah bah, ouais, bah, t'as raison.
Moi, je suis un crudivore comme toi, Caroline.
Mais Poule, vous ne prenez pas le temps de cuisiner?
Si. Ah si, je cuisine.
Ah oui, vous cuisinez, il me semblait bien. Je vois vos stories sur Insta. Hein. Vous
cuisinez. La meuf me stole.
Okay. J'ai pas besoin, vous travaillez pour moi, mon chéri. Vous êtes obligé. Caroline Vigneault, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Les coquillettes.
Moi, je suis team, team coquillette, très bien.
Isabelle Sorrente aussi, vous êtes un... voilà. Vous faites hyper gaffe.
Mais coquillettes, c'est pas bon, les gars, c'est transformé.
Non, mais nous, c'est les bonnes coquillettes.
Justement. Allez, passons donc à Isabelle Sorrente qui a amené un bouquin énorme.
Un bouquin énorme et magnifique de Joyce Carol Oates, donc, qui s'appelle La nuit, le sommeil, la mort, les étoiles. Le titre, il est inspiré d'un poème de Walt Whitman, qu'un personnage va citer dans le roman et qui est également en épigraphe. Et je mets mes lunettes pour lire ces petits caractères. Voici ton heure, mon âme, ton envol libre dans le silence des mots. Livre fermé, art déserté, jour aboli, leçon apprise. Ta force en plénitude émerge. Tu te tais, tu admires, tu médites tes thèmes favoris. La nuit, le sommeil, la mort, les étoiles. Alors en fait, l'atmosphère profonde de ces vers va traverser tout ce roman qui reprend aussi plusieurs des thèmes chers à la grande romancière américaine comme la violence sociale et le racisme, sans oublier des personnages ambivalents et tendres qui sont fous, comme dans la vraie vie. Et comme dans la vraie vie, les plus forts ne sont pas ceux que l'on croit. Voilà l'histoire. Whitey McLaren, la soixantaine, c'est l'ancien maire de Hammond, une petite ville tranquille de l'État de New York. Il est témoin de violences policières. Un homme d'origine indienne est brutalisé sous ses yeux. Donc, il est fort de son autorité. Il croit que les policiers vont le reconnaître, lui qui est l'ancien maire. Il tente de s'interposer et les policiers répliquent par des décharges de taser. Et quelques semaines plus tard, Whitey décède à l'hôpital. Il laisse derrière lui sa femme, Jessaline, et leurs cinq enfants, les trois aînés, Tom, Beverly et Lorraine, qui sont des durs, des adultes qui ont réussi, et les deux cadets, Sophia, la chercheuse en biologie, et Virgile, le peintre, qui sont plus timides et plus marginaux. Et ce que Joyce Carol Oates raconte, ça tient presque de la légende. C'est comment la mort d'un membre d'une famille va redistribuer les rôles et faire tomber les masques. En fait, la mort violente du patriarche, mais toute cette famille au pied du mur. Soit il faut se transformer, soit rester dans le passé. Il faut qu'ils deviennent vraiment eux-mêmes ou alors mourir avec le père. Si vous avez aimé la série Succession, moi j'y pensais en fait en lisant le livre, c'est que c'est presque à l'opposé de la série. Parce que finalement dans Succession, ce qui est tragique, c'est que le père ne veut pas céder la place. C'est que le patriarche ne se retire pas et du coup la transformation n'a jamais lieu. Succession, c'est en fait l'histoire de Saturne qui dévore ses enfants. C'est l'histoire d'une famille qui est pétrifiée. Dans la nuit, le sommeil, la mort, les étoiles, c'est le contraire. Le patriarche meurt, mais il reste toujours présent sous la forme d'une voix intérieure qui continue à dialoguer avec sa veuve, Jessaline, sous la forme de rêves, de souvenirs qui reviennent hanter les enfants. Mais on est loin d'une vision naïve, en fait. On reste chez Joyce Carol Oates, Charline, où toutes les nuances de noir sont bienvenues et bien là. Donc tout n'est pas rose au sein de la fratrie. Par exemple, Tom, l'aîné, déteste Virgile, le cadet. Il a failli le tuer quand ils étaient enfants. Virgile, adulte, est toujours terrifié par son frère et n'a jamais osé le dénoncer. Chaque personnage donc va évoluer comme si la mort du père faisait tomber les masques. Et il y a quelque chose de somptueux parce que tous les affrontements entre frères et sœurs, ça rappelle parfois, vous voyez, les hauts du Hurlevent dans leur violence. Et puis les dominants, ceux qui ont l'habitude d'écraser les autres, vont soudain se trouver face à eux-mêmes. Alors que les personnages les plus marginaux, les plus tendres, comme Jessaline ou Virgile vont renaître parce qu'ils savent plier et se transformer. Et pour terminer, dans les temps, je vais vous lire un bref passage qui est le fils Virgile qui pense à la mort de son père.
Chaussez vos lunettes.
Oui, et malheureusement, ça c'est. Alors, parfois, il avait la mort de son père au niveau de sa cuisse droite, dans la longue poche verticale où l'on pouvait mettre des outils, un petit marteau fendu par exemple, si l'on était menuisier. Parfois, il avait la mort de son père dans une poche de gauche au niveau de la taille, où il pouvait glisser sa main si elle était froide ou se sentait seule, auquel cas la mort de son père était un choc, un rappel. Oui, ici. Parfois, la mort était dans une poche intérieure, comme contre tout contre son cœur. Dans ce cas, le rappel était trop fréquent. Oui, ici, ou d'autres. Il aurait aimé laisser la mort de son père ailleurs que dans une poche de la veste kaki, sur une étagère, par exemple, dans un tiroir de son établi parmi pinceaux et chiffons tachés. Il aurait aimé laisser la mort de son père à une certaine distance, mais il y avait la peur, une peur paraissant extérieure à lui comme une pluie battante et froide, que la mort ne fût égarée, perdue. Essentiellement, la mort de son père était encombrante, envahissante. Où qu'il l'a mis, elle n'était jamais au bon endroit. Mmh. Donc je vous
redonnez-nous les
donc
références.
C'est La Nuit, Le Sommeil, La Mort, Les Étoiles. C'est le dernier roman de Joyce Carol Oates qui est paru aux éditions Philippe Ray. Une excellente maison.
Merci, merci Isabelle Sorrente. Et puis tous les précédents sont disponibles dans la collection Point.
Elle écrit presque un livre par an. Hein, c'est plus rapide à écrire pour elle que pour nous à l'année.
Isabelle Sorrente, merci. On aborde ce dernier thème et ce retour au nomadisme. Les télétravailleurs sont des nomades digitaux et l'Italie les accueille volontiers. Elle a signé un décret qui rend un visa accessible aux télébosseurs hors de l'Union européenne, ce qui permet au CSP+, de faire leur réunion Zoom sous le soleil toscan. Mais partir télétravailler au soleil, est-ce vraiment changer de vie? Sans doute oui, à cause de la barrière de la langue. C'est pas si aisé, n'est-ce pas?
Tu mi porti adesso all'aeroporto.
All'ospedale?
No, adesso mi porti all'aeroporto. No, tu mi porti all'aeroporto. Via.
Bravi, molto bravi.
No, scusi, guardi, avevamo un aereo da prendere.
Documento. Patente e libretto.
Lì non è possibile.
Questa macchina è rubata.
No, signore.
Ah, non lo conosce?
No, io non lo conosco. Insomma, tu.
Non lo conosco?
Ma come non lo conosco? Io non lo conosco!
Io non lo conosco!
Un momento.
Io ho rubato la macchina.
Il y a que Isabelle Sorrente qui a tout compris.
Absolument.
Bien sûr, évidemment, de Claude Lelouch. Je sais que le changement de vie est un thème qui vous inspire. D'ailleurs, vous avez sauté le pas en quittant le barreau pour les planches. Celui-là, nouveau changement de vie, phénomène de ces deux dernières années du télétravail, vous l'observez un peu? Est-ce que c'est un vrai changement de vie? Est-ce que le changement de vie, c'est géographique ou ça ne l'est pas?
C'est toujours pareil. Au départ, des fois, on pense que les choses sont merveilleuses. Moi, quand j'étais dans mon gros cabinet d'avocat américain, on m'avait remis à l'époque un Blackberry et j'ai trouvé ça tellement chic. Ça voulait dire que, franchement, j'appartenais à une grosse boîte, je gagnais bien ma vie et tout ça. Et au bout de deux jours, j'ai réalisé qu'en fait, ça voulait dire que j'étais joignable 24 heures sur 24. La nuit compris, et qu'on n'avait pas le droit de mettre moins de 20 minutes pour répondre. Et c'est devenu une laisse, c'était infernal en fait. Et j'ai détesté le Blackberry très rapidement. Mais au départ, j'étais hyper fière. Ouais. Télétravail, c'est un peu pareil. Au début, on était en confinement, on a fait des apéros en Zoom. Enfin, il faut se souvenir de cette époque où on trouvait ça charmé.
On
rencontrait des gens, les célibataires, on se draguait en se parlant comme ça, en essayant de se retrouver dans les réunions. Enfin, il y a une espèce de vie un peu excitante. Ouais. Et puis, bah, ça a fait plouf. On avait, au bout d'un moment, on avait envie de contact, quoi. Ouais. Donc,
mais c'est vrai que si on travaille, télétravailler, ce fil à la patte, c'est un peu bizarre comme choix de semi-vacances, semi-travail. Je sais pas si vous pourriez travailler vous en Toscane.
Est-ce que je pourrais travailler en Toscane? La réponse est oui, je pense.
Faudrait peut-être essayer, Charline.
Moi, je veux bien que vous m'envoyiez comme ça après une semaine ou deux. Je vous donne un peu mon ressenti, voir un peu si les équipes pourraient
je
me rejoindre.
Le contraire, moi, c'est moi qui serais allée. Je vous ai envoyé les. D'accord. C'est un peu une immigration dorée, non?
Bah non, mais
j'ai mis la réponse dans la question. Je m'en fais
exprès, c'est sorti tout
seul. Oui, c'est vrai, Caroline Vignon, votre avis, votre avis sur la question.
Non, mais c'est vrai qu'on peut travailler, on l'a tous fait, sans s'habiller, sans machin, en mettant juste un truc et en étant en petite culotte, c'est très sympa, mais ça veut dire qu'on est quand même toujours au bureau, à la maison aussi. Ouais, et donc, franchement, je pense que aller au bureau, ça permet de couper, rencontrer des gens et avoir une vie un peu peut-être plus simple.
Un article à lire sur Slate, par exemple, à ce sujet. Caroline Vignon voudrait profiter de votre présence pour jouer avec vous.
Vous voulez bien jouer avec nous? Choisi n'importe quel rôle. La valoche. Valérie Pécresse. Bien
évidemment.
Avec ses deux conseillers économiques, parce que évidemment il va falloir faire un Valériton, un Pécreston, parce qu'elle n'a pas eu les 5%, la campagne n'est pas remboursée. Comment ça se passe? Vous êtes Valérie Pécresse, Charline et Guillaume sont vos conseillers.
Bon, alors Valérie, il va falloir trouver l'argent pour financer cette campagne-là.
Ah bon?
Ah ben ouais, ma Valou, t'as fait moins de 5%.
Et comme on dit, il n'y a pas d'argent magique. Hein.
Et je dois rembourser combien?
Ben, 7.
7 000. Pas de soucis, je vous fais un chèque et on n'en parle plus.
Non, 7 millions.
D'anciens francs?
D'euros.
Quoi? 7 millions d'euros? Mais comment on va faire? Il va falloir que je vende ma résidence à la banque.
Non.
Celle de Versailles?
Non plus, non.
Ah, celle de Corrèze quand même, non.
Calme-toi, Valoche, on a une solution, on va demander de l'argent aux gens.
Oui, mais moi, je leur ai permis qu'ils en paieraient moins s'ils votaient pour moi.
Oui, bah, ils l'ont pas fait.
Voilà. Ah oui, mais du coup, ils auront quoi en échange, ces gens?
Eh ben, la survie du parti. Ouais, bon, on va trouver autre chose.
Autre solution, on a pensé à des produits dérivés, avec ce qui a marqué la campagne, toi.
Ah, génial. Mmh. Vous avez pensé quoi? Une petite maquette de moi en Margaret Thatcher?
Non, on a une petite maquette de votre soutien, le chien Douglas qui bouge la tête.
Ouais, et on a des pins parlants avec vos meilleurs punchlines.
C'est hyper dur parce que je me marre en même temps.
C'est un exercice virtuel, ça.
Oh là là.
En tout cas, je veux bien Valérie Pécresse. Ouais. Ouais, ouais.
Oh là là. Mais on va jamais récupérer 7 millions avec des goodies.
Bon, autrement, ce qu'on peut faire, c'est demander l'aide à Nicolas Sarkozy. Il a fait la même en 2013. Il a récupéré 11 millions d'euros en 2 mois. Allez, je l'appelle.
Allô, oui, qui c'est qui me dérange?
Oui, bonjour, monsieur Sarkozy. C'est Valérie Pécresse.
Ah.
Allô? Allô?
Ah mince, ça a coupé. Il devait être dans un tunnel.
Ou dans une cellule? Pardon.
Bon, autre idée, vous pourriez faire des ménages, faire des conférences dans des sociétés privées pour enflouer les caisses.
Mais oui, rien de mieux qu'une femme pour des ménages.
Ah oui,
ça c'est pas très féministe hein, comme phrase.
Ouais. Oh, ça va, il n'y a pas écrit Caroline Vigneault ici. Hein.
Oui, c'est sûr, ça c'est sûr.
Mais quelle société voudrait que je la conseille?
Alors, on a le cours Florent et la Comédie Française.
C'est vrai?
Mais non!
Bon, après, ce qu'on peut faire, c'est emprunter le reste de l'argent.
Oui, je connais une banque qui nous prêtera avec un bon taux.
Hein, combien?
Un taux à 4,7%. C'est juste en dessous de votre score.
On se moque un petit peu.
Bien sûr.
Caroline Vigneault.
On va tirer sur les ambulances.
Merci.
Fallait nous le dire avant, ça.
Vous inquiétez pas, elle va revenir en berline dans 2-3 jours.
Ça va.
Caroline Vigneault croque la pomme à l'Olympia à partir de demain jusqu'au 16 avril. Et puis vous serez notamment le 7 mai à Saint-Gilles, le 20 mai à Saint-Maur-des-Fossés ou le 11 juin à Mont. C'est dans le 37. Le 37, c'est...
Ben, c'est en France.
Bien sûr, évidemment. Merci à tous, Isabelle Sorante, Monsieur Poulpe, merci. Alex et Guillaume. On va se retrouver demain pour un par Jupiclasse, bien sûr.
L'éducation est un sport de combat.